Bonjour à tous, chers parents, et bienvenue sur ce podcast consacré à la parentalité. Je m'appelle Jessica, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants et je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 10 ans. J'accompagne des parents et des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires, sociales ou des troubles du comportement, par exemple. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode spécial. Je suis avec Valérie Romanens, nutritionniste, pour traiter d'une thématique particulière, l'alimentation et les troubles du comportement. Bonjour Valérie et bienvenue.
Merci, bonjour Jessica.
Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton parcours ?
Alors, mon parcours. Donc, je suis maman de deux enfants de 8 et 10 ans. J'habite à Aisin et puis à l'arrivée surtout de mon second enfant, des difficultés m'ont amenée à me pencher encore davantage sur ce que pouvait amener une alimentation déséquilibrée, sur le comportement de mon enfant, sur son sommeil et sur sa santé en général. J'ai pu vraiment me rendre compte de manière très personnelle sur l'impact négatif que pouvait avoir une alimentation déséquilibrée, beaucoup trop riche en glucides, ainsi que des produits industriels toxiques pour son organisme, comme les édulcorants, les colorants, les aromatisants.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu davantage sur ton rôle en tant que nutritionniste ?
Alors Jessica, avec plaisir. Donc mon rôle en tant que nutritionniste, c'est de pouvoir offrir, que ce soit aux parents, aux enfants, aux adolescents, etc., d'avoir un meilleur équilibre au niveau de l'alimentation et de prendre conscience que certains aliments, qui pourtant sont au quotidien dans notre manière de manger et puis les achats qu'on fait, qui sont forcément un petit peu nuisibles pour l'organisme.
D'accord.
Je donne des conseils aussi pour toutes les périodes clés de la vie, que ce soit au niveau de la grossesse, de l'allaitement, de l'enfance, de l'adolescence, la période de la ménopause ou bien les personnes âgées. C'est très important pour moi de pouvoir inclure dans ma démarche et puis ma prise en charge au niveau des patients l'aspect holistique qui fait aussi partie de ma formation. C'est un plus qui est non obligatoire, mais essentiel selon moi.
Alors Valérie, pour les personnes qui ne savent pas ce que signifie holistique, cela veut dire que tu considères la personne particulière dans son ensemble. Par rapport à la nutrition, j'imagine que cela signifie que tu ne considères pas la personne que du point de vue de la nutrition, mais d'un point de vue général, c'est-à-dire ses habitudes alimentaires, son activité physique, ses possibilités dans son environnement. C'est bien ça ?
Oui Jessica, c'est important pour moi de prendre la personne de manière unique. Chaque personne est unique, elle a besoin d'une écoute ciblée sur sa personnalité, sur sa manière de vivre, sur ses propres pathologies et ses propres problèmes. C'est pour ça que l'aspect corps-âme-esprit est très important. On creuse pour vraiment savoir ce qui procure un bien-être à la personne, de ce qui par contre pourrait lui procurer quelque chose qui ne convient pas à son corps et à son organisme. On considère chaque personne dans sa globalité.
C'est-à-dire avec ses forces, ses faiblesses, et puis tu, en fonction de ça, tu établis un plan de nutrition, par exemple.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça.
Au début de notre entretien, tu nous as dit qu'à l'arrivée de ton second enfant, tu avais rencontré des difficultés et qu'elles t'avaient poussé à t'intéresser encore plus à la nutrition et ses enjeux. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelles ont été les difficultés et surtout ce que tu as mis en place par la suite ?
Je me souviens parfaitement à quel moment ma remise en question s'est établie. Un jour, j'étais à la garderie avec mes enfants et une des bénévoles avec qui je buvais un thé m'a dit « Mais regarde ton fils, regarde son comportement. On dirait qu'il est sous cocaïne, regarde ses pupilles, regarde son comportement maintenant. Qu'est-ce que tu as bien pu lui donner à manger pour qu'il soit dans cet état-là » Et là, tout a changé. Et à ce moment-là, j'ai creusé pour comprendre quelle était l'alimentation que j'offrais à mes enfants à l'heure actuelle et pourquoi cette alimentation posait problème spécialement sur mon enfant. J'ai pris rendez-vous chez le pédiatre qui, à l'époque, n'a pas du tout compris mes questionnements. Il m'a beaucoup culpabilisée et elle me posait la question sur le fait que mon enfant n'avait aucun problème de santé, il n'était pas diabétique et c'était plutôt un lien fusionnel entre moi et mon fils qui posait problème dans cette situation, que je fabulais et que j'exagérais les choses. Je suis sortie du cabinet extrêmement déçue de cette incompréhension de la part d'un médecin. Et puis quand mon fils a commencé l'école, les problèmes ont commencé pour moi. Les enseignantes me convoquaient chaque semaine pour des problèmes de comportement et d'agitation. On en est même arrivé au fait que le matin, il refusait d'aller à l'école, il se cachait même dans les armoires pour ne pas y aller. C'était très difficile pour lui et pour moi.
Est-ce que du coup, tu t'es sentie remise en question dans ton rôle de maman à ce moment-là?
Oui et non. Heureusement pour moi, j'ai un premier enfant avant mon fils. Et cette petite fille n'a pas du tout des problèmes de comportement, n'a pas autant de réactions face à l'alimentation et face à certaines choses. Du coup, ça m'a permis de pouvoir expliquer aussi aux maîtresses que ce n'était pas uniquement des problèmes qui étaient liés à nous en tant que parents. C'était multifactoriel.
Est-ce qu'il y avait déjà des signes dès son plus jeune âge? À partir de quand finalement tu t'es posé des questions? Quel âge il avait?
J'ai réagi dès la grossesse. Mon enfant avait une énergie démesurée dès qu'il était dans mon ventre. Dès qu'il a commencé à bouger, je l'appelais même mon petit alien. Donc pour vous dire, il donnait énormément de coups de pied. J'avais l'impression qu'il dormait jamais, qu'il me laissait jamais tranquille, y compris la nuit. Quand il est né, il n'arrêtait pas de pleurer, tout le temps. J'étais devenue son doudou alimentaire, il était tout le temps à mon sein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il réclamait tout le temps à manger. Au niveau du sommeil, il n'a pas fait ses nuits jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça devenait extrêmement compliqué et j'admets que pour avoir la paix et pour pouvoir redormir et pour pouvoir gérer la journée d'après, je lui donnais des biberons chaque nuit. Toutes les 3 heures, je lui donnais 250 ml de lait pour qu'il puisse enfin être assasié et puis qu'on puisse enfin tous dormir.
Quand tu as commencé à te demander ce que ton fils avait mangé et à faire plus attention au contenu de son assiette, as-tu vu une différence? Est-ce que tu peux, de ton expérience, établir un lien entre la consommation de certains aliments et les troubles de l'attention, ou en tout cas les troubles du comportement qui en découlent?
Alors je dirais oui et non. Ça dépend des enfants. C'est bien évidemment aussi multifactoriel. Ce n'est pas uniquement l'alimentation qui va provoquer une hyperactivité chez un enfant. Par contre, c'est vrai que je vous incite vraiment à observer votre enfant. Regardez ses réactions face au sucre, face aux produits industriels, face aux colorants, etc., aux additifs, et aussi au glutamate qui se cache énormément dans l'alimentation actuelle. Tout ça provoque un énorme déséquilibre alimentaire. Et provoque aussi pour les enfants à la fois des carences et des excès. Et tout ça peut favoriser l'hyperactivité. Et de nouveau, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont réagir extrêmement vite, spécialement certains enfants avec troubles du comportement, parce qu'ils sont hypersensibles. Et certains autres, ce sera des symptômes un peu plus cachés. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être en bonne santé en consommant tous ces produits-là.
Quand tu parles de symptômes cachés, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors par exemple, il y a des enfants qui ne vont pas du tout être hyperactifs, qui ne vont pas du tout être excités par rapport au sucre. Par contre, ils vont pouvoir avoir des énormes problèmes au niveau de douleurs musculaires, au niveau d'insomnie. Il y a aussi des adolescents qui vont avoir énormément d'acné. Il y a énormément de choses qui découlent d'une alimentation hyperglucidique et qui posent énormément de problèmes sans forcément qu'on s'en rende compte directement.
Par exemple, quelqu'un qui se nourrit extrêmement mal à base de sandwichs et de chips et puis qui dit finalement « Oh, mais c'est pas grave, je grossis pas ». Tu veux dire par là qu'il y aurait des symptômes autres que finalement la prise de poids?
Oui, effectivement. Par exemple, mon propre cas personnel, quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de sport et puis j'avais l'impression que de manger du sucre, je mangeais notamment le Nutella à la cuillère et 1,5 litre de coca par jour, donc voilà. Okay. Et j'avais l'impression que, comme je ne grossissais pas, que ça me faisait aucun mal. Mais au final, mes problèmes d'acné, mes problèmes d'insomnie, mes problèmes de morale et aussi tous les problèmes d'eau que j'avais énormément à l'époque, c'était simplement lié à une alimentation hyperglucidique.
Tout à l'heure, tu nous parlais du glutamate, mais qu'on soit bien clair, tu ne parles pas des glutamates naturellement présents dans certains aliments comme les viandes, les poissons, les crustacés, mais bien de l'exhausteur de goût, cet additif alimentaire qu'on trouve par exemple dans les plats cuisinés, tout près, les chips, etc.
Oui, c'est absolument ça. Malheureusement, l'industrie agroalimentaire, pour économiser énormément d'argent, utilise ce genre de produits chimiques à toutes les sauces. C'est vraiment le cas de dire. Et il est bourré d'additifs dans, par exemple, les plats cuisinés, les plats asiatiques, les chips que nos enfants consomment régulièrement. Et ce glutamate, justement, qui est aussi nommé le glutamate monosodique, ou bien sur les étiquettes aussi des emballages extraits de levure, ou alors la formule chimique pour éviter aux gens de se rendre compte qu'il y a ce produit dans les aliments, c'est la E620 à E625. Et c'est un produit qui est neurotoxique, qui est extrêmement dangereux pour le cerveau à haute dose. Et si on cumule tous les aliments que l'on consomme dans la journée, ça peut avoir un effet extrêmement excitant sur les enfants, et spécialement sur les enfants sensibles du type hyperactif.
Quels sont pour toi les impacts directs sur la santé de la consommation de cet additif, le glutamate donc ?
Alors, par rapport aux impacts sur la santé de cet additif, une consommation excessive de ce produit, de cet exhausteur de goût, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a énormément de risques d'obésité parce que les personnes continuent à manger ce produit et en général finissent le paquet, par exemple dans le cas de chips. Du coup, il peut y avoir une surconsommation de l'aliment, de l'hypertension, de l'hyperactivité surtout, notamment du diabète, des migraines, des bouffées de chaleur. Les scientifiques nomment même ce symptôme le syndrome du restaurant chinois.
Mais du coup, comment on peut éviter ça? Qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder en premier, surtout quand on est maman, qu'on a peu de temps pour faire les courses?
Eh bien, c'est pas évident, parce que les industriels rusent d'énormément de stratagèmes pour les cacher dans leur préparation, avec des appellations plus ou moins scientifiques. Par exemple, il peut y avoir du glutamate et puis ça sera noté sur les emballages protéines hydrolysées ou assaisonnement naturel ou même épices ou extraits de levure. Donc pour ça, mon conseil principal, c'est de d'abord déjà de regarder toutes les étiquettes des aliments qui pourraient éventuellement contenir du glutamate pour voir si le produit est nommé, comme je vous ai déjà cité les différentes appellations. Privilégier toujours les labels. Les labels en général sont signes de qualité. Et puis, par rapport à ça, utilisez des produits les plus bruts possibles, avec le moins d'additifs nommés dans l'étiquette. Donc personnellement, j'ai une règle de base que je me fixe quand je vais faire mes achats de ce genre de produit, c'est qu'un produit qui contient plus de 5 aliments à base de E, etc., qui sont des adjuvants et qui ne sont pas censés être naturels, dans ce cas-là, je ne les achète plus. Et puis remplacez aussi tous vos bouillons industriels par des aliments un peu plus sains pour assaisonner vos produits, comme des épices, des herbes aromatiques, du sel, du poivre, des légumes, etc. Et revenir à des valeurs plus simples.
Est-ce que tu disposes d'études scientifiques, de références qui montreraient le lien entre l'alimentation et les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et au sens large avec les troubles du comportement ?
Alors oui, lors de ma formation spécifique sur les troubles de l'attention, mon directeur de thèse nous a informé de différentes études dont je vais vous nommer les résultats. Donc depuis les années 1970, il y a énormément de colorants alimentaires qui sont soupçonnés de favoriser le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants. Des études scientifiques ont rapporté que l'état de 30 à 40% des enfants hyperactifs peut s'améliorer grâce à un modèle alimentaire exempt d'aliments contenant ces colorants alimentaires de synthèse, entre autres. Dès 1982, les autorités de santé américaines avaient conclu qu'un régime alimentaire sans colorants peut contribuer à l'amélioration de l'état de certains enfants hyperactifs. Pour confirmer le lien entre les colorants alimentaires et l'hyperactivité, des chercheurs ont examiné en 2004 les résultats de 15 études cliniques faisant appel à des colorants alimentaires. Les résultats sont les suivants. Quand on supprime les colorants alimentaires de l'alimentation des enfants, ils ont constaté une atténuation des troubles du comportement à hauteur de 30 à 55% de l'amélioration obtenue avec des médicaments. La même année, une équipe de chercheurs américains a testé l'effet d'une alimentation dépourvue de colorants de synthèse et de conservateurs chez les enfants. Elle a recruté 1873 enfants TDAH de 3 ans qui ont suivi pendant une semaine un régime totalement dépourvu de ces catégories d'additifs. À l'issue de cette semaine, des enfants ont été séparés en deux groupes. L'un recevait une mixture contenant des conservateurs et 4 colorants alimentaires, le E110, le E102, E122 et E124, à raison de 5 mg de chaque colorant par jour pendant une semaine. Et l'autre groupe a reçu un placebo. Donc les résultats sont assez troublants. Donc la première semaine, Les symptômes TDAH ont diminué chez tous les participants. Mais, dès la deuxième semaine, les enfants qui avaient eu droit au mélange explosif ont vu leurs symptômes revenir, contrairement aux autres. Il est donc tout à fait possible de sous-entendre qu'il est énormément bénéfique de proposer une alimentation propre, sans colorants et aliments de synthèse chez les enfants TDA, car très souvent, ils sont hypersensibles. Et je rajouterais même que pour tout le monde, pour tous les enfants, même les enfants entre guillemets traditionnels, et pour les adultes, un aliment sans additifs et sans produits chimiques est bien meilleur pour leur santé. L'Union européenne a même exigé que les denrées alimentaires contenant les colorants E102, donc c'est nommé autrement, ça s'appelle aussi le tartrazine, le E104 qui est le colorant jaune de quinoléine, le E110 qui est le colorant jaune orangé, le E122 qui est le colorant carmoisine et enfin le E124 qui est le rouge cochenille qu'on trouve énormément dans nos chers yogourts aromatisés à la framboise ou à la fraise, le E129 qui est le rouge allura, le E210 qui se nomme aussi l'acide benzoïque, qu'ils portent chacun d'entre eux la mention « peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants ». Malheureusement, pour l'instant, la Suisse juge inutile de rendre cet avertissement obligatoire. C'est vraiment dommage.
Effectivement, pour nos auditeurs français, allez regarder sur vos colorants alimentaires les petites fioles de colorants liquides avec lesquels on colore les pâtisseries, par exemple. Vous verrez au dos, sur le carton, il y sera cette mention indiquée. Alors, pour diminuer les troubles, on a parlé du sucre, on a parlé des glutamates. Est-ce qu'il y a d'autres aliments à proscrire?
Oui, alors tout à fait. Les enfants ayant des troubles ont très souvent des carences alimentaires car ils surconsomment souvent les nutriments qui sont essentiels par leur agitation et par leur comportement. Il y a des recherches qui ont démontré qu'une majorité des enfants avec TOUP présentaient des carences en fer, en magnésium, en zinc, en vitamine D, en vitamine B3, B6, en oméga-3, ainsi qu'un énorme déséquilibre du microbiote. Mais pour moi, il est essentiel de préciser qu'il est vraiment dangereux de faire une généralité. On doit toujours prendre au cas par cas et faire une anamnèse précise du patient en consultation. On ne peut pas systématiquement supplémenter ou bien conseiller un modèle alimentaire sans avoir pris en compte l'aspect général et global de l'enfant.
Alors pour nos enfants, on a bien compris qu'il fallait éviter les sucres, mais faut-il vraiment les bannir? Est-ce qu'il y a des bons sucres, des mauvais sucres? Est-ce que tu pourrais nous dire le goûter idéal pour la collation de 10 heures par exemple?
Alors, bien évidemment, tous les enfants sont amenés un jour à l'autre à être exposés à la consommation de bonbons, de sucre industriel, etc. Et le but n'étant pas de lui interdire complètement, parce que le jour où il sera confronté, il y aura des trop fortes réactions par rapport à ça. Ce qu'il faut faire en sorte, c'est que l'enfant, quand il va consommer un aliment avec un indice glycémique très élevé, un sucre raffiné, etc., comme par exemple du chocolat au lait ou des bonbons, etc. Il faut rajouter à cela, quand on prépare le goûter d'un enfant, c'est très intéressant de rajouter à ce genre d'aliment un oléagineux par exemple, une noix, une noisette, de la noix de cajou, etc. pour faire descendre l'indice glycémique du bol alimentaire de l'enfant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de rajouter des fruits. Parce que la consommation de fruits, le fait qu'ils doivent mâcher longuement cet aliment, amène à l'organisme énormément de fibres. Et l'avantage des fibres, c'est que l'organisme va prendre plus de temps pour l'absorber au niveau du sang et puis ça va éviter justement une suractivité l'heure qui va suivre. Et dans ce cas-là, ça évitera aussi à notre enfant qui retournera sur les bancs d'école d'être dans un état d'agitation et puis d'excitation extrême. Ça lui permettra de se maintenir plus tranquille, de rester calme plus longtemps et plus concentré.
Précédemment, tu nous as donné le conseil d'utiliser surtout des produits non transformés, donc vraiment à l'état brut, des légumes, la viande, etc. Mais comment rendre l'assiette appétissante pour l'enfant? Comment lui faire manger sa ration d'haricots verts, si c'est juste des haricots verts posés dans son assiette, comme ça? Est-ce que tu as des conseils à nous donner?
Alors, en tant que maman, oui, parce que j'ai aussi des enfants qui ne sont pas forcément hyper motivés face à leur assiette d'haricots verts, justement. Donc, c'est très intéressant de jouer sur les couleurs, les saveurs, les textures, de proposer aussi des aliments à la fois crus, cuits, et puis de faire des sauces maison, de pas trop saler les aliments, pas trop les sucrer, etc., pour éviter de masquer les goûts. Et ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de lui proposer d'aller ensemble faire les courses, d'aller lui-même choisir les aliments et puis de cuisiner avec les parents est un moyen aussi de faire participer l'enfant, de le rendre acteur de son alimentation. Et souvent, ça marche assez bien. Et ce que je propose aussi de faire, c'est quand on est en train de préparer à manger, déjà de bien prendre conscience et de ressentir quand les enfants ont vraiment faim, de passer à table à ce moment-là et pas avant. Donc de bien analyser les moments justement où l'enfant a envie de manger et de préparer, pour débuter le repas en fait, de préparer quelques jolies pommes coupées, par exemple aussi des carottes crues, etc. pour éviter que l'enfant aille se ruer sur du pain par exemple ou bien d'autres choses. Et puis que de cette manière, c'est une manière détournée de lui faire consommer plus de fruits et plus de légumes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et aussi, par exemple, pour un goûter un petit peu plus stimulant pour l'enfant, de faire par exemple des brochettes de fruits. Ça peut être intéressant pour le goûter avec peut-être un petit morceau de chocolat noir et puis certains oléagineux décorés avec choix et puis faire éventuellement des dessins dans l'assiette et ce genre de choses. De donner l'aspect visuel est autant important que le goût pour un enfant. Donc le faire participer, lui donner envie de manger est vraiment important pour lui.
On parlait tout à l'heure des goûters. Si par exemple l'enfant a un goûter trop sucré, ensuite il retourne en classe, il est de toute évidence agité, qu'est-ce qui se passe concrètement dans son organisme? Est-ce que tu pourrais nous expliquer?
Alors oui, quand on prend conscience, biologiquement parlant, de ce que procure un aliment dans l'organisme, les montées de glycémie, ce qu'est réellement une hyperglycémie, une hypoglycémie réactionnelle, notre vision de l'alimentation, elle va changer. Donc, pour donner un exemple concret, quand un enfant va ingérer, par exemple, allez, on va dire une banane extrêmement mûre, qui a un indice glycémique très élevé, et qui va manger uniquement cet aliment-là, qu'est-ce qui va se passer dans son organisme? Donc, son organisme, d'un coup, va recevoir au niveau de son sang énormément de glucides, énormément de sucre. Et pendant une période relativement courte, qui dure environ 1 heure et demie de temps, il va avoir une énorme énergie et va pouvoir courir dans tous les sens, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que l'organisme il aura totalement consommé cet aliment? Eh bien, il y aura une baissée extrêmement rapide et extrêmement forte. L'organisme ne va pas avoir le temps de récupérer et il va y avoir une descente au niveau de l'énergie et le cerveau va réclamer de manière assez intense à reconsommer un aliment hyper sucré pour avoir de l'énergie pour pouvoir bien fonctionner. Donc ça s'appelle, si vous voulez, cette courbe-là s'appelle une hyperglycémie, donc une montée extrêmement forte de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, du taux de glucose dans le sang, et ensuite une hypoglycémie, donc une descente encore plus forte du taux de sucre dans le sang. Et c'est ça qui pose problème dans l'alimentation hyperglucidique, quand on donne trop de sucre à un enfant. Et nous, ce qu'on tend à proposer au niveau de l'alimentation spécialement des enfants hyperactifs, c'est de rendre une alimentation plus saine et plus équilibrée en rajoutant des graisses, des oléagineux par exemple, et puis des fibres, énormément de fruits contenus par exemple dans des fruits qu'on mange énormément, ou dans des légumes, ou éventuellement des produits complets. Cela va aider l'organisme justement à éviter ces pics de glycémie qui vont exciter l'enfant et l'épuiser sur le long terme. Alors, je rajouterais même qu'il y a des facteurs qui augmentent l'indice glycémique, comme par exemple la cuisson et la température. Pensez par exemple que si l'on consomme une purée de pommes de terre chaude, il y aura un indice glycémique très élevé. Alors que si on prend une pomme de terre qui a été chauffée puis refroidie sous forme de salade, par exemple, l'indice glycémique va être beaucoup moins élevé. Pareil avec le raffinage. Si vous consommez par exemple des pâtes industrielles, des pâtes blanches qui ont été totalement raffinées avec de la farine blanche, dans ce cas-là, l'indice glycémique est très élevé et ça sera considéré en nutrition comme du sucre au niveau de l'impact de la glycémie dans le corps. Par contre, si vous consommez des pâtes à indice glycémique bas, c'est-à-dire des pâtes complètes, dans ce cas-là, vous aurez moins cette pic de glycémie. Pareil aussi au niveau des fibres. Plus vous mangez des aliments et puis un bol alimentaire qui contient des aliments avec beaucoup de fibres, plus ça va ralentir justement cette pique. Pareil aussi au niveau de la maturité des aliments. Par exemple, si on prend l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la banane, plus elle est mûre, plus elle est noire, plus elle sera excitante et excitable par rapport à l'enfant. Et puis, on peut jouer aussi sur certaines astuces, comme par exemple les aliments insulin-like, en rajoutant de la cannelle dessus, qui va descendre l'indice glycémique de l'aliment. C'est toute une manière de faire, une méthode que l'on peut apprendre justement pour faire descendre ce genre de pic glycémique des aliments.
Finalement, si on reparle du sucre, particulièrement le sucre blanc, on ne peut pas considérer qu'il soit un moteur, un élément moteur pour notre énergie, mais au contraire, finalement, un déclencheur de fatigue. C'est ce que tu nous expliques.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement important d'avoir cette nuance-là. On pense que le sucre est quelque chose d'essentiel pour le cerveau, etc. Alors oui, mais ça dépend quel sucre. Le sucre simple, raffiné, le sucre blanc, on l'utilise malheureusement beaucoup trop, que ce soit dans nos pâtisseries, que ce soit au quotidien, dans notre cuisine, est un facteur extrêmement déclencheur de fatigue, de dépression et puis d'hyperglycémie réactionnelle. Donc il faut revisiter un petit peu notre alimentation et puis décrypter un peu plus ce que contient nos placards, ce que contient les aliments qu'on donne à nos enfants, pour pouvoir leur offrir un meilleur choix.
Donc si on résume, il faudrait être attentif et faire la chasse aux sucres inutiles, éliminer les additifs, les colorants, les exhausteurs de goût, prendre plus de temps pour faire les courses, parce que finalement, c'est du temps qu'on investit maintenant pour l'avenir de nos enfants. Pour ma part, je pense que si on a une opportunité de voter vraiment, c'est en choisissant des produits, en achetant avec notre carte les produits qu'on veut davantage dans nos rayons. Si plus personne n'achète de produits cuisinés irrespectueux, les industriels arrêteront de les proposer, puisqu'il n'y aura plus de possibilité de se faire de l'argent sur la santé de nos enfants. Valérie, est-ce que tu as maintenant, on arrive vers la fin du podcast, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets pour la suite? En as-tu? Quels sont-ils? Est-ce que tu peux nous résumer tout ça?
J'ai mis en place différents ateliers interactifs sur des thématiques variées, notamment un atelier parents-enfants qui parle de ce qu'est une alimentation saine et qui parle aussi des méfaits du sucre dans une alimentation. J'ai aussi d'autres ateliers qui parlent notamment du stress et de la fatigue, de la ménopause et des intolérances et des allergies. J'ai également des capsules de discussion avec des élèves qui souhaitent apprendre le français de manière ludique, où ils apprennent les bases de l'alimentation sous forme de vidéoconférence. Et en ce moment, je suis en train de terminer mon mémoire sur les enfants aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et aux troubles du spectre autistique, et j'ai décidé de continuer mon perfectionnement personnel et d'y ajouter une dernière corde à mon arc, qu'est la formation d'hypnothérapeute.
Si les parents ou des institutions ont besoin de toi, de tes services, sur des questions de nutrition, où est-ce qu'ils peuvent te rencontrer?
Alors, je les rencontrerai avec plaisir, que ce soit en consultation individuelle ou familiale à mon cabinet à Nyon, ou alors je propose des rendez-vous de coaching audiovisuel et des ateliers donc parents-enfants dont j'ai déjà expliqué
Le contenu.
Et puis, j'ai aussi des accompagnements pour toutes les étapes clés de la vie, que ce soit de l'enfance, l'adolescence, les seniors, etc. Ou lors de pathologies, comme dans le cadre de diabète, de rhumatisme, de dysbiose, de maladies cœliaques et autres. Et je suis aussi active sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram notamment.
Voilà, merci Valérie pour toutes ces informations, merci du temps que tu nous as accordé. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois sur un prochain podcast, peut-être sur la maternité ou sur la santé des mamans après l'accouchement, pourquoi pas. Mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère à bientôt.
Avec grand plaisir. À bientôt Jessica.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je remercie aussi les personnes qui me suivent sur Facebook, sur YouTube ou sur leur plateforme de podcast préférée. Et si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. En attendant de se rejoindre pour un nouveau sujet, vous pouvez toujours me retrouver sur ma page Facebook et sur mon site internet, moneduc.net. À bientôt !